très bonne question pour vous. Est-ce que Dieu a déjà arrêté le soleil et suspendu la course de la lune au cours de l'histoire? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse bien claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Le Seigneur va nous donner des bons moyens pour nous éloigner du péché et marcher dans la joie à travers les réponses que sa parole va nous donner suite aux questions que voici. Comment un croyant peut-il vaincre la chair? Comment peut-il vaincre le monde? Comment peut-il vaincre le diable? Dieu a-t-il réellement arrêté le soleil et suspendu la course de la lune du temps de Josué? A-t-il déjà fait quelque chose d'encore plus grand que cela? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Jeudy a toutes les réponses en main, puisqu'il a ouvert sa Bible, la parole de Dieu, dans laquelle se trouve tout l'enseignement dont nous avons besoin. Demandons à Dieu de nous éclairer, de nous aider à bien comprendre tout ce qu'il va nous dire. Prions. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de lumière. Tu es la lumière du monde. Alors viens nous éclairer. Éclaire nos vies, éclaire nos cœurs. Fais-nous comprendre ta belle parole. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que la ville d'Haï représentait la chair. Cet épisode de l'histoire d'Israël nous enseigne des leçons spirituelles. Premièrement, nous devons reconnaître l'ennemi et sa puissance. Et notre pire ennemi est nous-mêmes. Il arrive que nous blâmions Satan pour nos chutes et nos péchés. Mais le vrai responsable est la convoitise de notre propre chair. Nous vainquons la chair en nous appuyant sur l'esprit. Nous avons aussi vu que nous sommes défaits parce que l'on s'appuie sur nos propres forces. Les espions avaient dit à Josué que la ville pouvait être prise avec 3000 hommes. La chair ne peut pas être vaincue si facilement. Nous devons en arriver au même point que l'apôtre Paul. « Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort ?» Romains chapitre 7, verset 24. Seul l'Esprit de Dieu peut contrôler notre chair. Il est inutile d'essayer de le faire par nos propres efforts. Christ est mort pour notre salut, mais aussi pour régler le problème de notre nature pécheresse. En envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Romains chapitre 8, verset 3. Lorsque le Seigneur Jésus est mort à la croix, notre chair fut jugée et crucifiée avec lui. Ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus a payé pour nos péchés que le Saint-Esprit peut travailler en nous. Maintenant, il peut appliquer dans notre cœur les bénéfices que le Seigneur nous a acquis à la croix. Paul a exprimé cette vérité ainsi. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates chapitre 2, verset 20. Tout comme Haï a défait Israël, la chair va nous vaincre, à moins que nous nous appuyions sur le Saint-Esprit. Chers amis, débutons notre lecture, Josué chapitre 8, versets 30 à 32. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, c'était un autel de pierre brute, sur lesquelles on ne porta point le fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Lorsque Dieu bénit, soyons reconnaissants. Josué construisit un autel à l'Éternel selon les instructions que Dieu avait données à Moïse. Ensuite, le peuple se divisa en deux, et les bénédictions et les malédictions furent lues comme l'avait commandé Moïse. Versets 33 à 35. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges, se tenaient des deux côtés de l'arche, devant les sacrificateurs, les Lévites, qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Les étrangers, comme les enfants d'Israël, étaient là, moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lise en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants, et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. La loi fut entièrement lue, pas juste quelques portions. Le pays devait être gouverné selon cette loi, et elle fut enseignée au peuple. Les trois premiers adversaires que rencontrèrent les enfants d'Israël dans la terre promise furent Jéricho, Haï et les habitants de Gabaon. Ces trois ennemis représentent les ennemis des chrétiens contemporains. Jéricho, c'est le monde. Haï, c'est la chair. Et les habitants de Gabaon représentent Satan, le diable, l'adversaire. Après la prise d'Haï, c'était au tour de Gabaon de faire face à l'armée d'Israël. Cependant, ses habitants furent rusés. Josué, chapitre 9, versets 1 et 2. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusque près du Liban, les Éthiens, les Amoriens, les Cananiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Tous les rois voulaient s'unir contre Israël. Mais pour une raison, l'alliance ne se fit pas et ils n'ont pas réussi à arrêter Israël. C'est peut-être pour cette raison que Gabaon a décidé de faire une entente avec Israël. Versets 3 à 15. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal, et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance avec nous. » Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, « Peut-être que vous habitez au milieu de nous. » Et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Et Josué leur dit, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous? » Ils lui répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoriens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Bassan, qui était à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, Prenez avec vous des provisions pour le voyage. Allez au-devant d'eux, et vous leur direz, « Nous sommes vos serviteurs, et maintenant, faites alliance avec nous. » Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outravins que nous avons remplis toutes neuves, les voilà déchirés. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Les habitants de Gabaon ont menti à Josué et à Israël qui tombèrent dans le piège. Quoique Josué ait été désireux d'obéir à Dieu, il fut trompé et fit une alliance avec des ennemis. Notez que ni Josué ni Israël ont consulté Dieu à ce sujet. Nous vainquons le monde par la foi, la chair par la confession de nos péchés et par la puissance de l'Esprit. Rappelez-vous que c'est Dieu qui a dit à Israël qui leur donnait la ville d'Aï. Maintenant, la question est la suivante. Comment pouvons-nous vaincre le diable? Oui, chers amis, nous sommes devant le troisième ennemi qui est le diable. Comment pouvons-nous vaincre le diable? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Tout comme les enfants d'Israël auraient dû se méfier de la ruse de Gabaon, de même, le croyant doit reconnaître les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Notre véritable ennemi est Satan. Mais combien de chrétiens le reconnaissent aujourd'hui? Satan cherche à nous tromper, afin qu'on le suive. Satan ne cherche pas nécessairement à faire des alcooliques ou des débauchés de nous. En fait, dimanche dernier, il était à la réunion de l'Église, et il y sera dimanche prochain. Satan n'a pas d'objection à ce que nous soyons religieux, car il veut que nous l'adorions. Donc, il trompe beaucoup de chrétiens. Dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, nous lisons « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Malheureusement, pour beaucoup de croyants et de chrétiens, nous sommes souvent ignorants des ruses du diable. Comment pouvons-nous vaincre un tel ennemi? La réponse est dans l'épître de Jacques. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques, chapitre 4, verset 7. Mes amis, premièrement, il faut se soumettre à Dieu. De nos jours, il faut demeurer près de Dieu. La stupidité de certains croyants devant les ruses du diable est parfois étonnante. Bien des escroqueries religieuses fonctionnent parce que les chrétiens ne font pas d'enquête et ne posent pas les bonnes questions avant de les appuyer financièrement. Nous ne devrions jamais donner à un organisme avant de se renseigner à son sujet. De même, les organisations chrétiennes ne devraient pas accepter n'importe quel argent. Josué et les chefs ont accepté les provisions des habitants de Gabaon. Est-ce que cela aurait pu nuire à leur jugement? La Bible ne le dit pas, mais c'est fort possible. Lorsqu'Israël a vu qu'il fut trompé la nation a tout de même respecté le serment fait au nom de l'Éternel. Versets 19 et 20. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, « Nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. » À cette époque, la parole donnée était importante, et il devrait en être ainsi aujourd'hui. Versets 21 et 27. Ils vivront, leur dirent les chefs, mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait, ce qu'ils font encore aujourd'hui. Maintenant, nous passons au chapitre 10, dans lequel Israël défait les 5 rois amoréens. Ensuite, il détruira les villes de la région sud de la terre promise. Débutons notre lecture du 10e chapitre du livre de Josué, versets 1 à 4. Adoni-Tsedec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ses hommes étaient vaillants. Adoni-Tsedec, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piriam, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lachis, et à Debir, roi d'Églon. « Montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. » Les 5 rois veulent attaquer Gabaon, afin que la ville serve d'exemple. Versets 5 à 9. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées, et ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. » Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Josué avait deux raisons de secourir Gabaon. Premièrement, Israël avait fait une alliance avec la ville. Deuxièmement, Dieu avait ordonné à Josué d'exterminer les peuples qui habitaient le pays. Il attaqua donc les rois par surprise. Versets 10 à 14. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit prouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azeka et à Makkeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Bien des explications sont proposées pour ce miracle, mais il semble que Dieu ait simplement arrêté le mouvement du système solaire. Dieu a fait cela afin que Josué remporte une victoire complète. Un professeur a dit que l'idée que Dieu arrête le mouvement du système solaire ou qu'il arrête simplement la Terre de tourner pour un seul homme est ridicule. Mais pourtant, Dieu l'a fait. Dieu fait de grandes choses pour les siens. Il a même fait quelque chose de plus grand encore. Il a envoyé son Fils dans le monde afin qu'il soit crucifié pour nos péchés. C'est encore plus merveilleux que d'arrêter le mouvement du système solaire. En arrêtant le soleil et la lune, Dieu a démontré sa sagesse et sa puissance. En envoyant son Fils sur terre afin qu'il prenne une nature humaine et qu'il meure à la croix, Dieu a démontré son amour. Si vous auriez été la seule personne sur terre, le Seigneur Jésus serait mort pour vous. Le professeur dirait que c'est ridicule, mais nous avons un mot pour décrire cela. La grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est extraordinaire de voir ce que Dieu peut faire pour son peuple. C'est étonnant de voir toute la puissance qu'il est prêt à déployer pour son peuple qui le sert. Nous ne devrions jamais craindre de servir Dieu là où il nous appelle. Lorsque nous marchons dans ses voies, sa volonté et son plan, Dieu marche avec nous. C'est lui qui ouvre et ferme les portes. Il nous défend contre nos ennemis. Il est là pour protéger avec toute sa puissance. De plus, il nous aime au point d'avoir envoyé son Fils mourir pour nos péchés à la croix. Par cette mort, il a crucifié notre chair afin que son esprit puisse agir en nous. Nous avons un Dieu puissant qui nous aime. Nous n'avons pas à craindre les hommes. Allons de l'avant et marchons par la foi. L'Éternel Dieu s'est occupé de Josué. Il connaissait sa situation. Il est venu à son aide. Il est le secours de Josué. Aujourd'hui, Dieu connaît ta situation. Il est prêt à devenir ton aide, ton secours, ta délivrance. Il est le Tout-Puissant. Il en a le pouvoir. Adresse-toi à lui, maintenant. Tourne-toi vers lui. Implore le pardon pour tes péchés et la puissance du Saint-Esprit pour marcher humblement et fidèlement avec lui en accomplissant sa volonté. Et tu pourras assister à des merveilles. Ta vie sera une merveille de Dieu. Et les gens de ton entourage pourront voir l'œuvre grandiose que Dieu peut faire à travers une vie. Prochaine émission, Josué 10:15 à 11:23.
Merci, Réjean. Oui, Dieu a fait de grandes choses pour Josué et pour le peuple d'Israël. Ça fait bien longtemps que c'est arrivé, mais ce qui m'encourage, c'est de savoir que Dieu est tout aussi puissant de nos jours qu'il ne l'était du temps de Josué. Ce qui m'a le plus touché aujourd'hui, c'est que Dieu, qui a arrêté le soleil et suspendu la course de la lune, est ce même Dieu d'amour qui a envoyé son Fils dans le monde afin qu'il soit crucifié pour nos péchés. Ça, c'est merveilleux. Quelle belle démonstration d'amour envers nous, des pécheurs perdus qui n'aurions jamais pu forcer les portes du ciel pour y entrer par nos propres forces. Je ne sais pas si on réalise la profondeur de l'amour de Dieu. Quand je pense qu'il n'y avait aucun moyen par lequel j'aurais pu entrer au ciel un jour. Régent a réellement dit le verset qui prouve ça, quand il a cité l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 8, ça décrit bien la grâce de Dieu, le don qu'on ne méritait pas. Paul a dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et j'aime ce que Paul dit dans le verset suivant, quand il ajoute « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Il m'arrive assez souvent de parler aux gens du fait qu'ils peuvent être sauvés, avoir la vie éternelle, tout simplement en plaçant leur foi en Jésus-Christ. Et presque automatiquement, ces gens se mettent à me décrire tout le bien qu'ils font. Ils me racontent leurs bonnes œuvres, la bonté qu'ils ont usée envers des démunis, des sans-abri. Je trouve ça louable. Avant de connaître le Seigneur, j'étais loin d'en faire autant que certaines gens qui se donnent énormément pour aider les gens autour d'eux, et même les gens qu'ils ne connaissent pas, par exemple dans les pays sous-développés. Mais ce que je trouve triste, c'est que ces gens ont souvent de la difficulté à croire qu'on ne peut pas gagner notre ciel. Mais la parole de Dieu nous enseigne que le ciel, c'est un don de Dieu. C'est gratuit. On n'a pas à payer. Jésus a tout payé. Juste avant de mourir sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». On n'a même pas à dire « Aide-toi et le ciel t'aidera ». On a juste à croire Dieu. On a juste à le prendre au mot. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Mon ami, aimerais-tu être certain d'aller au ciel quand tu vas mourir? Tu peux l'être maintenant. Reconnais que tu es un pécheur perdu. Même si tu es une bonne personne, repens-toi. Il y a sûrement du péché dans ta vie. Dieu n'est pas menteur. Il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors comme j'ai dit, repens-toi, change de direction. Demande au Seigneur de te sauver, de te donner la vie éternelle. Il a payé cher pour venir t'offrir ça aujourd'hui. C'est pas toi qui dois payer, c'est lui. Il a payé en entier. Jésus a accepté toutes ces choses qui lui ont été faites, tout ce mal qu'on lui a fait. Il a accepté d'être flagellé, couronné d'épines. Il a accepté qu'on lui crache au visage. Il a accepté qu'on lui donne des coups de fouet, qu'on lui plante une couronne d'épines sur la tête. Et il s'est laissé crucifier sur une croix par sa propre créature. On a crucifié Jésus, on l'a assassiné à cause de moi et à cause de toi.
Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui! Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Et à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.